Radio Prague, les informations.
64 ans se sont écoulés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le nouveau gouvernement tchèque a été nommé ce vendredi. Deux sommets de l'Union européenne se sont déroulés à Prague. La sélection tchèque a été éliminée aux championnats mondiaux de hockey. Ce vendredi 8 mai a été en République tchèque le jour de la fête nationale en rappel du 64e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Des actes de piété ont eu lieu à cette occasion à différents endroits du pays, par exemple devant le monument des légionnaires tchécoslovaques ou devant le monument dédié aux membres de la 2e résistance à Prague. Ce vendredi, le président Václav Klaus a nommé au château de Prague le nouveau gouvernement de Jan Fischer qui aura 17 membres. Il remplace le cabinet de coalition de Mirek Topolánek qui a démissionné il y a plus d'un mois suite à la motion de censure soumise par le Parti social-démocrate de l'opposition et adoptée par la Chambre des députés. L'objectif principal du nouveau cabinet sera de mener à bout la présidence tchèque de l'Union européenne. Après l'investiture du nouveau cabinet intérimaire, le premier ministre sortant Mirek Topolánek a prononcé un discours dans lequel il a exprimé son soutien aux démarches du gouvernement de son successeur Jan Fischer. Il a également dressé un bilan des activités de son cabinet de coalition, une occasion pour lui de mettre en relief certains indices économiques favorables, dont le bas taux de chômage ou la hausse des revenus des familles avec enfants. Prague accueillait le sommet sur le partenariat oriental. Son but, renforcer les liens de l'Union européenne avec 6 pays de l'ancienne Union soviétique. Un autre sommet européen convoqué à Prague pour ce vendredi portait sur des questions énergétiques. Au cœur de l'intérêt, le projet de gazoduc Nabucco, appelé à relier l'Asie centrale et l'Europe et à réduire la dépendance de l'Union européenne au gaz russe. Lors du sommet, l'Union européenne et la Turquie se sont mis d'accord sur la signature d'un accord qui est à cette fin nécessaire. Alexis Rosenzweig qui a assisté aux deux sommets pour plus de détails.
C'est donc ce jeudi à Prague qu'a été lancé le partenariat oriental, un partenariat qui vise à renforcer les liens entre l'Union européenne et 6 anciennes républiques soviétiques, à savoir la Biélorussie, la Moldavie et l'Ukraine, qui ont des frontières communes avec l'Union européenne, et puis 3 pays du Caucase, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Alors ce partenariat est doté d'un budget initial de 600 millions d'euros. Il n'est pas question pour les 27 de donner des perspectives d'adhésion à l'Union européenne à ces 6 pays. En fait, il est plutôt question à long terme ou à très long terme de créer une zone de libre-échange et de libéraliser les régimes des visas pour les ressortissants de ces 6 pays. Alors évidemment, la Russie reste très méfiante à l'égard de ce partenariat oriental et l'a fait savoir. En fait, Moscou considère que les Européens tentent d'élargir leur zone d'influence sur des territoires, il faut bien le dire, que les Russes ont toujours tendance à considérer plus ou moins comme leur chasse gardée. Alors avant et après ce sommet pragois, les Européens se sont employés à calmer le jeu et à nier que ce projet était dirigé contre la Russie. Le partenariat oriental ne doit pas être un renouvellement des deux blocs, Est et Ouest, ni être une lutte d'influence. C'est ce qu'a notamment déclaré le Premier ministre tchèque Mirek Topolánek, dont le pays préside en ce moment l'Union européenne et jusqu'au 30 juin. Mais c'était le dernier grand rendez-vous international pour Mirek Topolánek, avec également un sommet européen sur un projet de nouveau gazoduc qui s'est déroulé ce vendredi à Prague. Dernier grand rendez-vous européen pour Mirek Topolánek, qui, vous le savez, était déjà depuis quelques semaines à la tête d'un gouvernement démissionnaire qui cède sa place ce vendredi au nouveau gouvernement tchèque de Jan Fischer. Au centre des congrès à Prague, Alexis Rosenzweig pour Radio Prague.
Et on continue avec le sport. La sélection tchèque a été définitivement éliminée au championnat mondial de hockey à Berne en Suisse, car elle ne s'est pas qualifiée en demi-finale dans un match décisif. En quart de finale, jeudi soir, elle a succombé à la Suède 1-3. Ainsi se répète le scénario que l'équipe tchèque avait connu l'année dernière au Canada. C'est une grande déception pour les hockeyeurs dont l'ambition était de gagner la médaille d'or et pour les très nombreux supporters tchèques. Météo ce samedi, le jour de fête de Stibor, selon le calendrier local. Le ciel en Tchéquie demeurera à moitié dégagé, à couvert. Des orages et des pluies pourront apparaître, notamment dans la soirée. Les températures diurnes se situeront entre 20 et 24 degrés pour les maximales. C'était le journal présenté par Alena Gabertova.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission spéciale 8 mai et je vous propose une histoire un peu folle, une histoire dont la trame pourrait servir de base à un film d'espionnage. C'est aussi une histoire d'amitié, une amitié forgée par le courage et l'entraide qui a permis au Tchèque Hugo Polak, sa femme et sa fille de fuir à l'ouest dans des conditions rocambolesques et quasi improbables. Nous sommes en 1964 dans un paysage idyllique de l'Adriatique. Un Français, Marc Anger, accompagné de sa femme, s'y trouve en vacances. Sur la presqu'île de Primošten, un inconnu l'aborde. Il a un accent étrange lorsqu'il parle français. Marc Anger vient de rencontrer Hugo Polak, un Tchèque. Les deux hommes sympathisent. Le couple de Français invite Hugo Polak à dîner. La soirée se termine. Hugo Polak se souvient.
J'ai dit à Bernadette, c'est assez tard, ma femme pourrait s'inquiéter, il faut que je retourne. Et elle a dit, ah oui, peut-être c'est mieux que de vous rentrer, puisque votre femme pourrait penser que vous étiez kidnappé. Et j'ai dit, ah oui, c'est exactement que j'aimerais bien que quelqu'un nous kidnappe, mais il serait obligatoire que ce soit quelqu'un qui nous kidnappe à l'ouest. Alors, on a ri beaucoup, etc. Puis on s'est dit qu'on va se retrouver à nouveau demain matin.
Hugo Polak est né en Tchécoslovaquie et suit le parcours modèle d'un jeune Tchèque de la bourgeoisie dans la toute nouvelle République tchécoslovaque de l'entre-deux-guerres. Il suit des études de médecine à Genève, en Suisse, que la guerre vient interrompre. En 1948, après être retourné en Suisse, il rentre en Tchécoslovaquie malgré les avertissements de ses professeurs qui le mettent en garde contre les risques qu'il encourt dans la Tchécoslovaquie devenue communiste. Les vacances prévues se terminent au passage de la frontière. On lui confisque son passeport. La vie derrière le rideau de fer commence avec son lot d'arrestations et de séjours en prison. Mais s'il a choisi de rester en Tchécoslovaquie pour que sa future femme puisse terminer ses études, puis après la naissance de leur fille, Hugo Polak continue de vouloir s'enfuir. À la fin des années 50, le couple trouve une solution pour fuir. Ce sera le coup de grâce. Hugo Polak est arrêté, torturé et jeté en prison, puis envoyé dans des mines d'uranium de Yakhimov, comme tant d'autres prisonniers. Il y passera 2 ans, bénéficiant d'une amnistie générale après la mort du président Zapotocki et grâce au léger dégel de la déstalinisation. Et les projets de fuite se font de plus en plus pressants. Hugo Polak.
Avant de rencontrer Monsieur Anger, on a fait déjà plusieurs tentatives de s'échapper. La première, c'était avec un cousin de ma femme qui vivait à Ljubljana. Nous avons espéré qu'ils auraient des connexions pour nous aider, mais ils n'en avaient pas. C'était drôle parce que nous étions les médecins, mais il nous a conseillé d'aller à à l'ambassade, au consulat autrichien, à Ljubljana. Il dit, alors pourquoi vous leur dites que votre fille est malade et puis que vous devez aller retourner à Prague aussitôt que possible, parce que en allant en Yougoslavie, on était obligé d'aller, de faire un détour par Hongrie. C'est beaucoup plus long. Alors, on est allé au consulat d'Autriche, on a dit notre fille était très malade, s'il pouvait nous donner une permission de traverser l'Autriche directement pour Prague. Mais, ce monsieur, il est un bureaucrate, il nous a dit, non, j'aimerais bien vous aider, mais malheureusement, puisque vous n'avez pas un passeport, c'est impossible, parce que je peux seulement vous donner un visa dans un passeport. Nous avions seulement un permission de circuler, de voyage, un permis de voyage dans le bloc de l'Est. On ne pouvait rien faire, alors on était très dessus, on est revenu à notre cousin. On a trouvé qu'il y avait un consulat belge à Ljubljana. Le consul était très très gentil, mais quand je lui ai dit pourquoi je suis venu, que j'avais l'aide d'aller à l'Occident, il était très insécure. Il m'a demandé si je suis seul ou avec ma femme. Je lui ai dit oui, ma femme avec ma fille nous attendait. Il nous a tous invités, et puis on en a parlé, et puis finalement, il était très gentil. Enfin, il a dit, mais j'aimerais bien vous aider, mais pour vous arranger d'avoir un passeport, ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Mais j'ai un ami à Koper, c'est une petite ville tout près de Trieste. Alors, et j'ai un ami là-bas qui est proconsul, et je suis bien sûr, si je vais lui écrire, qu'il vous donne une permission pour le week-end d'aller à Trieste.
Finalement, donc, c'est la rencontre fortuite avec le couple Angers qui sera déterminante. Au fur et à mesure que Marc Angers découvre la destinée des Polaques, il devient évident qu'il faut les aider à réaliser leur projet. Hugo Polak se souvient.
Au bout de 2-3 jours, on était très, très bons amis. On a commencé à parler de si c'était possible qu'il nous aide de nous échapper de Yougoslavie. Donc, il commençait à comprendre ce que c'était la vie dans le régime communiste, et ils étaient très sympathiques si c'était possible de nous aider. Ils ont décidé de nous aider en nous donnant leur passeport. Heureusement, on était de même âge, et ma femme ressemblait à Bernadette, avec les cheveux noirs, et moi, plus ou moins, à Marc, notre fille. C'était une autre chose qui était absolument fabuleuse, qu'ils avaient leur fille inscrite dans leur passeport. Seulement, l'âge de leur fille était moins de 6 ans, et notre fille était à peu près 7 ans, 7 ans et demi, ce qui faisait un peu de problème en allant en Trieste. Marc était un organisateur incroyable. Enfin, le jour avant notre départ, il a dit, alors vous aurez besoin de vos documents. Je vais les envoyer après que vous quittez le camp.
Et Marc Angers pense à tout. Les Angers déclareront le vol de leur papier d'identité une fois que les Polaques seront loin a priori. Les documents officiels des Polaques seront eux découpés et envoyés à différentes personnes de la famille Angers. Ils relookent les Polaques à l'occidental. Les étiquettes françaises de leurs vêtements sont découpées et recousues sur les vêtements communistes. Les chaussures échangées. Marc leur confie des cartes d'abonnement à un club de golf et autres documents qui font authentique. Il faut encore penser à l'arrivée en France. Et c'est là qu'intervient une personnalité improbable également, Jean-Pierre Coff, le monsieur gastronomie de la télé française, qui à l'époque est l'adjoint de Marc chez Job, le fabricant de papier à cigarettes. C'est lui qui ira récupérer les clés des Angers chez la sœur de Marc pour que les Polaques aient un toit au-dessus de leur tête à Paris à leur arrivée.
Thank you.
La fuite des Polaques connaîtra encore quelques rebondissements, mais finalement, la famille parviendra à gagner la France. Évidemment, les Polaques seront interrogés par les services secrets et Marc-Angé aura maille à partir avec la justice pour avoir confié ses papiers d'identité. C'est paradoxalement grâce à un inspecteur de la DST que Marc-Angé cessera d'être inquiété, un inspecteur qui s'était lui-même occupé du dossier d'Hugo Polak dont il avait admiré le parcours et le courage. Marc apprendra par la même occasion que l'arrestation d'Hugo Polak par les services communistes en 1957 lors de ses projets de fuite par Berlin avait été la conséquence des agissements de l'agent double britannique Kim Philby qui avait balancé des réseaux organisés ou quand la grande histoire croise la petite histoire. Les Polaks ont émigré aux États-Unis où ils ont fait carrière. Aujourd'hui, à la retraite, ils partagent leur temps entre l'Amérique et la République tchèque. Les souvenirs de cette aventure incroyable ont été consignés par Marc-Angé dans un livre publié en 2007 aux éditions L'Harmattan sous le titre « La tour de la mort, l'amitié défie le rideau de fer ». C'est ainsi que se termine la première partie de cette émission spéciale 8 mai. Cette première partie vous a été présentée par Anna Kubishta. Et pour la suite et fin de ce programme, que vous pouvez bien entendu, vous le savez, retrouver sur internet au www.radio.cz, et bien pour la suite de ce programme, donc, je passe l'antenne à Václav Richter.
Il existe dans la musique tchèque du XXe siècle un chapitre qui correspond à la période commençant juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et s'étalant aux années 1950. Cette époque a été marquée d'une part par la liberté retrouvée et l'optimisme d'après-guerre et d'autre part par la rechute vers un nouveau totalitarisme et les aberrations staliniennes. Elle a eu cependant, elle aussi, sa vie culturelle, ses compositeurs, sa musique et ses chansons. Aujourd'hui, cette partie de la vie culturelle tchèque du XXe siècle est quasi oubliée. Pourtant, les générations ayant vécu dans les années 40, 50 et 60 se souviennent encore de ces chansons engagées avec lesquelles le régime leur rebattait les oreilles, ces chants patriotiques ou franchement politiques qui retentissaient en de nombreuses occasions et qu'on chantait surtout lors des défilés des revues militaires des 1er à 9 mai, jour de la libération, restent gravés dans leur mémoire. Ces gens ont cependant déjà oublié avoir d'abord chanté ces chansons avec plaisir. Les innombrables manifestations de gratitude à l'armée soviétique, gratitude d'abord réelle et sincère, ont progressivement dégénéré en un formalisme souvent rébarbatif et ridicule. Après août 1968, à l'invasion de la Tchécoslovaquie par la même armée qui l'avait jadis libérée, ces chansons et tout ce répertoire sont devenus, pour beaucoup, franchement inacceptables. Le libérateur est devenu occupant et chantait la gratitude à l'Union soviétique avait désormais un arrière-goût de collaboration.
«
Dans les premières années après la guerre, il y a eu toute une pléiade d'artistes qui ont apporté leur contribution à ce répertoire. Déjà dans l'entre-deux-guerres, de nombreux artistes intellectuels tchèques de gauche manifestaient leur sympathie pour l'Union soviétique. Cette russophilie, ou plus précisément soviétophilie, s'est épanouie avec d'autant plus de force après la guerre et aussi touché le domaine de la musique. Dans son livre « La musique dans les pays tchèques », le musicologue Guy Erisman évoque plusieurs compositeurs de talent qui ont volontiers suivi cette tendance.
Ces compositeurs et quelques autres furent influencés par un aîné, Václav Dobiaj, ayant vécu entre 1909 et 1978, très engagé dans l'idéologie officielle. Ainsi s'explique la double attirance vers les compositeurs russes les plus célèbres de l'époque, à la personnalité incontestable, Sergueï Prokofiev et Dimitri Chostakovitch, en même temps qu'un penchant obligé pour la musique de circonstance. Leur héritage est loin d'être négligeable, bien que certains autres compositeurs de la même génération aient su rompre avec le conformisme que prêchaient les cercles officiels.
Tout un répertoire de chansons de masse, chansons engagées, voit le jour. Les compositeurs comme Václav Dobiaj, Radim Dreissel, Jan Seidel, Ludwig Podest mettent en musique non seulement des vers de circonstance, mais souvent aussi des poèmes de qualité. Parmi les paroliers de leurs chansons figurent même des personnalités qui trônent sur le Parnasse de la poésie tchèque. Vítězslav Nezval, František Halas, Josef Kainar, Vilém Závada et aussi Pavel Kohout, poète très officiel du régime communiste qui finira par en devenir un critique implacable avant de passer à la dissidence. C'est lui qui signe les paroles de la chanson de Ludwig Podest « Demain on dansera partout », chanson qui deviendra plus tard un véritable symbole de l'optimisme obligatoire des années 50. Parfois se glisse aussi dans ce répertoire de circonstances une chanson plus ancienne qui n'a rien à voir avec le faux optimisme et a été créée à une époque et dans une situation bien différente. Tel est le cas de « Le monde est à nous », principale mélodie du film du même titre de 1937, film dans lequel le duo des clowns intellectuels, Voskovets et Verich, et leur compositeur attitré, Jaroslav Ježek, cherchaient à donner une image plus amusante et plus optimiste d'un monde guetté par le cataclysme mondial.
Свет, а то я оптимист, без речи будет с нами без.
Je vous ai parlé de la chanson engagée et de la flambée d'optimisme obligatoire dans les années 1940 et 1950. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci de l'avoir suivi.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.